Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, c'était la dernière des vacances. Bien, alors, aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs choses. D'abord, vous allez avoir une petite annonce pour un prix. J'espère que vous y concourrez si vous appartenez à une association. Ensuite, on évoquera la fonte des glaciers, qui est un énorme problème. Très brièvement, la COP 30 à Belém, parce que nous y reviendrons. Et la mobilisation du Sud, puisque l'Afrique essaie justement de préparer, de mettre en place tout son système pour justement Belém. Donc écoutons d'abord Camille Crété qui nous présente son projet. Donc Camille Crété, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du développement des programmes de la philanthropie donc de Terre Solidaire. Terre Solidaire est une association.
C'est une fondation.
Une fondation. Voilà, alors elle finance donc la transition écologique et notamment des projets utiles et concrets qui agissent réellement sur le terrain. Alors, allez-y, vous avez donc un projet en cours dont vous voulez nous parler.
Oui, tout à fait. Merci Dominique de me donner la parole. Donc, je voulais vous présenter le prix « Il change le monde ». Qui est une initiative super importante pour la Fondation Terre Solidaire, parce qu'on la réitère chaque année, et cette année, c'est la 5e édition. L'objectif de ce prix, c'est tout simplement de récompenser une association pour son action qu'elle mène en faveur de la transition écologique et solidaire au niveau local. Donc ça peut vraiment concerner plein de thématiques différentes, que ce soit l'agriculture, le milieu marin, la sobriété énergétique, l'économie circulaire. Bref, on est ouvert à toutes les thématiques, à condition que ça rentre dans l'objectif général qui est la transition écologique et solidaire. Et vraiment derrière, la volonté derrière ce prix pour la Fondation Terre Solidaire, c'est d'aller détecter, identifier les petites associations qui agissent au niveau local et qui accélèrent à leur échelle la transition écologique. Donc on est tout simplement à la recherche de nos nouvelles pépites pour l'année à venir.
J'espère qu'elles vont nous entendre. En tout cas, depuis 2016, vous avez financé 296 projets. C'est énorme. Donc grâce à vos 8000 donateurs et vous aviez récupéré 6 millions d'euros, je crois. Donc, nos associations, c'est les petites associations qui ne reçoivent jamais d'argent. Donc, elles vont pouvoir aller vers vous. Comment elles doivent faire
Alors, c'est tout simple. Donc, effectivement, on demande aux associations de candidater, des associations qui agissent en France, métropole et outre-mer, ça marche aussi. Et on demande à ce que le dernier budget clôturé soit inférieur à 200 000 euros, puisqu'on s'adresse vraiment aux petites associations pour ce prix-là. Et donc tout simplement, elles doivent aller sur le site internet de la Fondation Terre Solidaire, donc fondation-terresolidaire.org, et elles ont jusqu'au 15 novembre pour candidater, donc il y a un dossier à remplir. Voilà, donc c'est jusqu'au 15 novembre.
Bah écoutez, je vous remercie, j'espère qu'elles entendront. Je redonnerai bien sûr dans le petit script qui accompagne toujours le podcast le lien vers Terre Solidaire. Merci Camille, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Alors voilà, 2025 a été décrété par l'UNESCO et l'OMM, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la météo, année mondiale des glaciers. Bien sûr, ça ne se sait pas toujours, mais ces derniers, comme la neige ou toutes les surfaces gelées, comme la banquise, jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. Alors que vous commencez à être familiarisé un petit peu, grâce à nous, au rôle des forêts et de l'océan, eh bien se prépare en silence un terrible basculement. Les alertes rouges se multiplient quant au recul des glaciers. 275 000 ont été identifiés, mais il y a sans doute beaucoup d'autres, tout petits et tout aussi menaçants, s'ils se mettent à fondre. Alors une jeune glaciologue, qui s'appelle Eddie Sevestre, vient de repartir pour le pôle Nord. Elle est docteure en glaciologie et membre du Club international des explorateurs. J'ai eu la chance de la rencontrer en juin à Nice, durant la discussion de l'UNOC. J'espérais l'avoir à ce micro, mais elle a déjà quitté ses Alpes natales pour sa base au Svalbard. Trop loin de nous dans les glaces, mais elle travaille pour nous. En tout cas, pour tous les jeunes qui suivent cette émission, sachez qu'elle est sur les traces d'un vieux glaciologue, qui s'appelle Claude Lorius, qui était chercheur à l'Université de Grenoble. Il avait découvert dans des carottes de glace, mais surtout dans le glaçon de son verre de whisky, des bulles d'air emprisonnées, qui était pleine de CO2, de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Une preuve de la composition de l'air de l'époque de son glaçon s'était formé. Ce fut le début des recherches qui nous ont conduits à tout ce que nous savons aujourd'hui sur le réchauffement. Donc écoutons Eddie, qui s'exprime au micro d'une télévision indépendante lilloise sur ce sujet.
Et à l'époque, partir en Antarctique, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu pars, t'as une base, c'est confortable, t'as Starlink, t'as une machine qui fait de la glace, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi, que c'est très confortable aujourd'hui. Lui, quand on lui demande de partir en Antarctique, c'était dans la base Charcot, ce qui était une sorte de cagibi creusé dans la glace à l'est de l'Antarctique, quoi, vraiment des conditions dantesques. Et en fait, Claude, ce qu'on lui avait demandé de faire, c'est d'aller étudier la glace en elle-même de l'Antarctique. Et en étudiant juste, donc c'est bête ce que je te dis, hein, mais la glace de l'Antarctique, donc l'eau et les isotopes d'eau, il développe une technique qui, grâce aux isotopes d'eau, va, donc aux molécules d'eau, hein, va nous permettre de reconstruire les changements de température passés au moment où, et ça explique comment les glaces se forment, au moment où la neige tombait sur l'Antarctique. Parce qu'en fait, tous les glaciers sur Terre sont formés de la même façon. Ils sont formés tout simplement par de la neige qui tombe à un endroit et qui ne disparaît pas complètement pendant l'été et qui continue à s'accumuler pendant l'hiver et l'année suivante et l'année suivante et l'année suivante. Et au bout d'un moment, cette neige devient tellement épaisse et tellement lourde, tellement dense, que la neige la plus ancienne, elle se fait écrabouiller et en se faisant compacter, elle se transforme en glace. Et donc Claude, en regardant cette glace, il se dit mais j'ai une petite idée comment essayer de reconstruire la température au moment où la neige tombait sur l'Antarctique. Donc c'est assez magique, il commence à dessiner en fait l'histoire de notre planète, l'histoire de changement climatique. Mais il a un autre, lors de son deuxième hivernage, il a une intuition absolument géniale. Et là, c'est la fameuse histoire du glaçon dans son verre de whisky. Et en fait, il met des petits morceaux de glace, des petits morceaux d'une carotte de glace qu'ils avaient récoltée à des centaines de mètres de profondeur. Et ces morceaux de carotte, bam, il les met dans son verre de whisky. Et en fait, il se rend compte que dans cette glace, il y a plein de petites bulles d'air. Et ces petites bulles d'air, elles remontent à la surface de son verre de whisky. Et il se dit, c'est marrant parce qu'on me demande d'analyser donc, ces molécules d'eau, cette glace. Mais en fait, il y a de l'air là-dedans et on ne m'a jamais parlé de ces bulles d'air. Et donc, il se pose la question, mais d'où elles viennent ces petites bulles d'air ? Et en se posant cette question, il comprend que quand la neige en fait, elle tombe sur l'Antarctique, avec les flocons, avec leurs petites branches, ils arrivent à coincer des morceaux d'air et que finalement, ces bulles d'air dans la glace, c'est le seul échantillon d'atmosphère passée que l'on a sur Terre, quoi.
Alors, vous comprenez que c'est incroyable, mais que finalement, une découverte qui ressemble presque à un eureka, en fait, eh bien, ça s'est passé comme ça. Et c'est ainsi qu'ont commencé très sérieusement les recherches scientifiques sur, finalement, le réchauffement climatique. Alors, pourquoi je vous parle de la fonte des glaciers ? Parce qu'après tout, c'est loin de nous. Mais parce que les glaciers sont les châteaux d'eau de la Terre. Pour 2 milliards de personnes, ils aident ces gens dans leurs efforts agricoles et puis, bien sûr, dans la production de leur eau courante. Mais ils sont aussi source d'énergie quand leur eau de fonte sont prisonnières des barrages. Ils influencent le réchauffement climatique puisque leur surface blanche reflète comme un miroir les rayons solaires par albédo. En fait, leur fonte risque de dérégler complètement les routes de vent que nous connaissons et c'est encore en observation, mais si cela advenait, cela alimenterait des périodes climatiques complètement déstabilisées.
Si toute la glace du Groenland disparaissait, le Groenland, ça fait à peu près 3-4 fois la taille de la France. C'est une grosse partie du Groenland qui est recouverte de glace. Il y a de la glace jusqu'à 3 km d'épaisseur par endroit, quoi. Il y a beaucoup de glace au Groenland. Et là, le Groenland, c'est vraiment le driver, je sais pas comment tu dis en français.
Le moteur.
Voilà, moteur. Le moteur régional qui contribue le plus à l'élévation du niveau des mers. Parce que les océans plus réchauffent, plus ils prennent de place. Mais nous, en plus, avec ces glaciers balancent donc de la glace continentale, de la glace qui est sur la Terre, ils la balancent dans l'océan. Et donc ça aussi, ça contribue à l'élévation du niveau des mers. Donc si le Groenland disparaissait, d'un coup, d'un seul, voilà, c'est 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Et si, pareil, si l'Antarctique disparaissait du jour au lendemain, l'Antarctique, c'est quand même 25 fois la taille de la France, hein. C'est de la glace jusqu'à 4 km d'épaisseur, donc c'est énorme. C'est 58 mètres d'élévation du niveau des mers. Donc c'est vraiment, vraiment majeur. Moi, je dis souvent que oui, on est tous, où que l'on habite, on va être concerné par ça, quoi. Là, on est en plein dans des débats sur l'immigration. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas, pour ne pas rentrer trop dans l'actualité, mais on ne peut pas parler d'immigration sans comprendre que dans les années à venir, dans les décennies à venir, mais vraiment dans les années, je pense, c'est des dizaines de millions, voire des centaines de millions de personnes qui vont se déplacer. Et que la coopération entre les peuples, mais elle va être vitale. Mais aussi chez nous. Je pense que quand on prend ces décisions chez nous en ignorant un peu, on a l'impression que le changement climatique ne nous touche pas trop, mais l'élévation du niveau des mers, c'est pas que le Bangladesh et les Pays-Bas, hein. C'est toute la côte aquitaine, tu vois, La Rochelle, l'île de Ré. On me dit toujours qu'il faut que je parle de l'île de Ré, parce que visiblement ça touche beaucoup en France. C'est toute la partie, bah, évidemment, Camargue, Arles. Ouais, le nord de la France aussi est très très touché par ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fera, quoi, quand on aura des terres agricoles qui seront contaminées par l'eau salée? Qu'est-ce qu'on fera quand voilà des habitations, des autoroutes seront bouffées par l'océan? Et là aujourd'hui, alors ce que je veux dire est assez flippant, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on va avoir au moins un mètre d'élévation du niveau des mers. C'est, après, c'est une question de temps. Plus on continue à brûler d'énergie fossile, plus ça arrivera vite. Vraiment, pour l'instant, les pires des scénarios nous montrent qu'on pourrait avoir, alors là, grosse prudence, qu'on pourrait avoir un mètre dès les années 2070. Donc, dans 50 ans, tu imagines, on peut avoir un mètre d'élévation du niveau des mers. Avec, évidemment...
Partout pareil. Non, pas partout pareil,
voilà,
géographiquement.
Tu sais comment ça se passe. Voilà. Ouais. Suivant les températures de l'océan, suivant les vents, les courants, ça peut pas mal changer. Quoi, pas mal changer? Ça changera pas de 3-4 mètres, mais ça changera un petit peu. On peut aussi avoir 3 mètres d'élévation du niveau des mers si on reste sur notre trajectoire actuelle. Et notre trajectoire actuelle, heureusement, est en train de changer. Mais si on reste sur la trajectoire actuelle, on peut avoir 3 mètres d'ici le début des années 2100. Donc ça arrive très vite, hein. Et puis ensuite, voilà, c'est juste une question de notre volonté, jusqu'où on veut que ça aille, quoi.
Quand on parle des 6 à 7 mètres ou d'une dizaine de mètres du Groenland et des 58 mètres d'élévation, ça serait dans quelle perspective si on ne fait rien?
Ouais, ça peut arriver. Alors là, on parle vraiment de millénaires plutôt, hein, que de siècles. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous, pour comprendre comment est-ce qu'on essaie de projeter, voilà, l'élévation du niveau des mers, c'est on peut s'imaginer assez compliqué. En fait, il faut qu'on regarde ce qui s'est passé dans le passé. Non seulement on regarde les petites carottes de glace qui sont très utiles, mais on regarde beaucoup aussi les carottes de sédiments. On regarde aussi les littoraux de notre planète. Et aujourd'hui, on arrive à reconstruire relativement bien comment le Groenland et comment l'Antarctique avaient réagi à plus 1 degré d'augmentation de température, à plus 2 degrés, à plus 3 degrés dans le passé. C'est arrivé dans le passé. C'est arrivé il y a des centaines de milliers d'années. Mais aujourd'hui, on arrive à comprendre qu'en fait, que le Groenland, comme l'Antarctique, peuvent avoir des réactions très rapides, vraiment abruptes. On parle de réactions abruptes au changement climatique. On sait que voilà, pendant le dernier âge de glace, donc le petit écureuil cherchait ses noisettes, voilà, sur les carottes de glace, que le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Pourquoi le niveau des mers était si bas? Parce qu'on a un volume d'eau fini sur Terre. Donc, si tu n'as pas moins d'eau dans les océans, l'eau, elle était ailleurs, elle était dans les calottes glaciaires. tu vois, ces grandes calottes, donc la glace qui allait jusqu'à Lyon en partie. Donc on sait qu'évidemment, voilà, dès que ces calottes polaires réagissent au changement climatique, c'est le niveau des océans qui change. Et le problème, c'est qu'à l'époque, hein, il y a quelques centaines de milliers d'années, ça n'allait pas aussi vite qu'aujourd'hui, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, c'est ultra rapide. On sait qu'on a un décalage, que les concentrations de CO2, elles sont telles qu'on devrait avoir un niveau des océans déjà beaucoup plus élevé. Donc, on sait qu'on a un décalage. Et aujourd'hui, donc, c'est en regardant dans le passé qu'on comprend mieux le présent et qu'on essaye de faire travailler nos modèles pour qu'ils nous disent, ben voilà, le Groenland tel qu'il est aujourd'hui, l'Antarctique tel qu'il est aujourd'hui, si on leur ajoute plus 3, plus 4 degrés, à quelle vitesse ils vont réagir. Donc c'est comme ça, pour vraiment simplifier à fond, qu'on essaie de prévoir ce qui va se passer. Et aussi, évidemment, il y a quelques centaines de milliers d'années, on n'était pas 8 milliards de personnes.
Haïdé Sylvestre, donc 50 ans après les découvertes de Lorius, repart sur ses traces, en voulant cette fois étudier les glaces anciennes et les sédiments dont elle vient de nous parler, pour récupérer des données avant qu'il ne soit trop tard, avant que tout cela ne fonde, ne disparaisse. Elle a écrit un livre passionnant que je vous conseille, « Sentinelle du climat ». Et elle témoigne longuement dans le numéro 1 d'un nouveau magazine au titre prédestiné, puisqu'il s'appelle Iceberg. Transition toute trouvée pour les Montpelliérains qui pourront, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité, écouter le prospectiviste Denis Lacroix, chercheur honoraire d'Ifremer, qui le 17 novembre à Planète Océan évoquera les liens entre la fonte des glaces et la montée des mers. Alors, je vais vous dire deux mots sur la COP 30. On commence à en parler 15 jours avant dans tous les grands médias. Alors, pour moi, c'est quelque chose de très nouveau, parce que je me souviens d'une époque où vraiment on était une poignée de mains simplement à en parler. Enfin bref, la COP 30 qui va se dérouler donc à Belém et dont je vous parlerai dans une quinzaine de jours, elle va se dérouler au Brésil donc du 12 au 22 novembre et elle portera bien sûr tous les nouveaux messages dont on a parlé au cours de cette émission. C'est oui, le réchauffement il s'aggrave et oui, chemin faisant, il désorganise beaucoup de choses. Les dernières COP ont insisté sur l'effort d'atténuation et la fin des fossiles. Mais entre-temps, Trump a été élu. Et il a fait renaître des vagues de climato-sceptiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les climato-sceptiques ? Eh bien, ce sont souvent des hommes et des femmes de court terme qui se soucient de leur confort immédiat et surtout pas de l'avenir des terriens de demain. Ils nous font croire qu'avant l'arrivée des nouveaux désastres, la science saura répondre. Manque de chance, nous comptons les points de non-retour aujourd'hui, mais nous ne voyons pas poindre les solutions. Et de la COP 30 à Belém, nous aurons l'occasion d'en reparler très sérieusement. Mais d'ores et déjà, sachons que la fonte des glaces, l'acidification des océans, l'amoindrissement des puits de carbone sont de vraies réalités auxquelles il va falloir faire face quand des dirigeants se permettent de douter en mettant nos vies en danger. Et la difficulté vient de ces nouvelles menaces, des conflits possibles autour de l'eau par exemple, des budgets de plus en plus restreints. Et pour la première fois en plus, depuis qu'existent les COP, l'Union européenne ne sera pas leader à Belém. Et la France y a joué un rôle important. On parle de recul de l'écologie. Et ce n'est sans doute pas le cas dans la tête des citoyens. Mais d'autres priorités s'imposent aujourd'hui. Donc, il faut rester mobilisé. Alors, ce qui est important, et ça n'est pas inutile, parce qu'on est en train de s'apercevoir qu'aujourd'hui, si les pays qui sont responsables l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui ont conduit donc au réchauffement climatique, c'est-à-dire les pays riches comme les États-Unis ou l'Europe, on est en train de s'apercevoir que les pays émergents, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, la Chine, etc., dépassent aujourd'hui en termes de production alors non pas en termes d'accumulation, mais en termes de projection, dépassent les pays riches qui ont fait des efforts. Donc il faut vraiment que tous les pays s'organisent et acceptent de réduire. Et le Sud semble prendre la parole, il faut l'y aider. Alors un important rassemblement vient de se dérouler à l'initiative de l'association Climate Change au Bénin, à Cotonou. Et donc, nous allons écouter un court extrait de la conférence de presse sur ESITV, la conférence de presse qui lançait cette grande réunion.
Comme toutes les autres communes du monde font face aux conséquences des dérèglements climatiques, la commune a donc pris d'importantes initiatives qui ont besoin de financement. La rencontre de Cotonou doit nous permettre de faire un pas important dans la mobilisation de ces ressources afin de financer ces nombreux projets. Les communes du Bénin à travers la NCB sont en train de mettre en place la maison du climat qui a été présentée lors du 45e congrès de l'Association internationale des maires francophones, initiative pour concrétiser la contribution des élus locaux à la transition énergétique du Bénin.
Ce sommet sera meublé de diverses activités qui vont impacter le domaine.
Donc on ne fait pas un sommet juste pour faire un sommet. On fait un sommet, bien sûr, pour rassembler la communauté locale, pour augmenter finalement la connaissance du sujet de la part de tous les acteurs locaux. Et on a été notamment, nous, extrêmement attentifs à la mobilisation de la jeunesse. Nous aurons, durant ce sommet, l'accueil de la caravane du climat, qui est une caravane de jeunes de toute l'Afrique de l'Ouest qui viendra ici à Cotonou pour ce moment. Nous avons un moment particulier qu'on appelle le Pitch Corner où nous présenterons une quinzaine d'actions portées par des jeunes béninois dans différents domaines. Donc mobiliser les jeunes, faire en sorte que la communauté se renforce, que tous les acteurs et les dernières informations, qu'il y ait des échanges de meilleures pratiques, qu'on renforce cette dynamique. Mais un sommet, c'est aussi un certain nombre de messages qui sont délivrés au reste du monde.
Ce rendez-vous s'illustre comme le plus important pour l'Afrique, qui a besoin d'une adaptation.
La pratique sur l'action climatique en Afrique, elle est diversifiée. Nous devons donc passer un cap, celui de l'Afrique qui utilise la vulnérabilité comme son moteur de discours politique pour mettre en avant ce que l'Afrique sait faire et comment elle peut le porter à l'échelle en mobilisant ses ressources et en utilisant les ressources disponibles à l'international comme des ressources de catalysation pour faire de ce qu'on appelle le choc climatique, en fait, de la prospérité climatique, donc celle qui est climato-compatible.
Et effectivement, à Belém, c'est sans doute sur cette position que tous les États du monde vont se retrouver. C'est-à-dire que le temps du constat, le temps de la mise en œuvre, finalement, est terminé. Et aujourd'hui, il faut passer à l'action. Et toutes les actions, enfin toutes les années qui se proposent, qui se projettent jusqu'à 2050, qui va être une des premières étapes, puis 2100 qui sera la dernière où on devrait atteindre, je vous le rappelle, zéro émission carbone, eh bien toutes ces années-là sont des années qui maintenant demandent une mise en demeure et une mise en préparation. Eh bien, sur ces bonnes paroles, au revoir à tous, hein, et bonne semaine, et bon week-end plutôt, et puis la semaine prochaine, eh bien, nous partirons pour une nouvelle aventure. À bientôt, au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.